Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour en finir avec les vrais hommes. Une chronique de Sébastien Lévesque, parue le 10 juin 2024 dans le quotidien de Chicoutimi. Dernièrement, j'ai écouté quelques extraits du Lucide Podcast, un balado masculiniste qui prétend expliquer aux hommes comment redevenir de vrais hommes. Qu'on le veuille ou non, cette notion de « vrai homme » évoque immédiatement une série d'images et de comportements stéréotypés comme la force brute, l'invulnérabilité émotionnelle et le courage sans faille. Mais nous verrons que, derrière cette façade de virilité, se cache un problème profond, souvent désigné par le terme de « masculinité toxique ». La masculinité toxique, oui. Cette expression, qui a gagné en popularité ces dernières années, désigne un ensemble de normes culturelles qui dictent aux hommes comment ils doivent se comporter pour être considérés comme des vrais hommes ou comme des « alphas », pour reprendre une expression largement répandue chez les influenceurs masculinistes. Le problème, c'est que ces normes sont non seulement restrictives, mais également nuisibles, à la fois pour la société dans son ensemble et pour les hommes eux-mêmes. La masculinité toxique se manifeste notamment par l'encouragement à la domination, au contrôle et à l'évitement de toute apparence de faiblesse. Les hommes sont ainsi poussés à refouler leurs émotions, à adopter une attitude agressive et à voir les relations humaines sous l'angle du pouvoir et de la compétition plutôt que de la coopération et de l'empathie. En ce qui a trait aux relations hommes-femmes, par exemple, les hommes sont encouragés à endosser le rôle du pourvoyeur vis-à-vis des femmes qui seraient supposément plus passives par nature. Ce cadre de comportement rigide, en plus d'être extrêmement réducteur et limitatif, est aussi à l'origine de nombreux maux sociaux. Prenons l'exemple du harcèlement sexuel. Il s'agit là d'une manifestation flagrante de la masculinité toxique, où la domination et le contrôle s'expriment de manière particulièrement violente et destructrice. Les hommes qui harcèlent voient souvent les femmes comme des objets de désir plutôt que comme des êtres humains à part entière. Ce comportement est enraciné dans une culture, la culture du viol, qui valorise l'objectivisation et la prise de pouvoir sur les femmes. La violence conjugale trouve aussi sa source dans ces mêmes stéréotypes où les hommes se sentent en droit de contrôler et de dominer leurs partenaires, allant parfois même jusqu'au féminicide, un phénomène en progression depuis quelques années. À sa manière, la crise climatique offre aussi une perspective originale et surprenante sur la façon dont la masculinité toxique peut être un frein au progrès social. Des études montre effectivement que les hommes sont souvent plus réticents à adopter des comportements écologiques tels que l'acquisition d'une voiture électrique ou les déplacements à vélo, en partie parce que ces comportements sont perçus comme moins masculins. De manière analogue, on observe que les hommes sont généralement plus résistants aux changements sociaux, certainement parce qu'ils craignent de perdre leurs privilèges. À travers ces différents exemples spécifiques, on observe que la masculinité toxique constitue un frein général à l'évolution en matière de justice sociale et de lutte aux inégalités. Les hommes, qui ont historiquement occupé la majorité des positions de pouvoir, ont par ailleurs façonné un monde où la compétition et la hiérarchie sont souvent valorisées au détriment de la collaboration et de l'égalité. Alors qu'elle est remise en question, cette vision du monde laisse de plus en plus de place à des mouvances conservatrices réactionnaires animées par le ressentiment à l'égard des femmes, des personnes racisées et de la communauté LGBTQ+. Pour toutes ces raisons, il ne fait aucun doute à mes yeux que les vrais hommes constituent un véritable problème dans notre société. Mais qu'on me comprenne bien, je ne dis pas que ce sont les hommes le problème. Le problème, c'est la masculinité toxique. Les hommes ne sont pas foncièrement mauvais. Ils doivent simplement renoncer à créer une forme de masculinité idéale. Comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir à propos des femmes, « Je considère qu'on ne naît pas homme, mais qu'on le devient. » Cette perspective nous invite à déconstruire les stéréotypes pour permettre à chaque homme de développer sa propre identité masculine, libérée des contraintes oppressives de la norme sociale. Bref, les vrais hommes ne sont pas ceux qui se conforment aveuglément aux stéréotypes de la masculinité toxique, mais plutôt ceux qui osent les remettre en question pour s'engager en faveur d'un monde plus inclusif et égalitaire, où chacun et chacune de nous a sa place, malgré sa différence. Il serait donc temps de reconnaître que cette masculinité plus traditionnelle, dont certains semblent avoir la nostalgie, est devenue l'un des principaux obstacles au progrès dans des sociétés démocratiques sur lesquelles planent de nombreuses menaces. C'était, pour en finir avec les vrais hommes, une chronique de Sébastien Lévesque, parue le 10 juin 2024 dans le quotidien de Chicoutimi.
Semeuse de joie, un texte de Jocelyn Chavy, paru le 11 juin 2024 dans Terre d'aventure. Réalisatrice, voyageuse, Caroline Riegel partage une longue histoire avec les nonnes d'un monastère bouddhiste aux Zanskar, en Inde. Semeuse de joie, son premier film, a ému des centaines de milliers de spectateurs. Un vajra dans la main droite, une cloche tibétaine dans la main gauche, les nonnes lisent ensemble. Elles psalmodient les textes sacrés. Ne plus pouvoir prier serait s'éloigner du chemin de l'éveil, disent-elles. Alors elle prie et n'oublie jamais les préceptes du Bouddha, suivant l'école Gelugpa. De ces nonnes d'un petit monastère du Zanskar, Caroline Riegel a filmé leur sublime étonnement dans « Semeuse de joie », sortie en 2015. Touristes dans leur propre pays, les nonnes partent à la découverte de l'Inde. J'ai été emportée par une joie inébranlable et une générosité hors du commun, dit d'elle la réalisatrice, jointe par téléphone au Gabon, où elle travaille comme ingénieure hydrologue. Semeuse. Une œuvre autant qu'un raz-de-marée qui porte bien son nom et inonde de joie les spectateurs par milliers qui lui envoie des piles de lettres. À l'époque, quand je fais ce voyage avec elle, en 2012, je ne sais pas ce que c'est de faire un film. Mais elle va apprendre, avec les nonnes. Depuis l'hiver 2004-2005, passé à la nonnerie, Caroline Riegel connaît son sujet, alors qu'elle-même, à cette période, traverse l'Asie entière, depuis le lac Baïkal, un périple achevé dans le golfe du Bengale. En 2012, Caroline emmène ses amies nonnes sur les pas de leur Bouddha, un pèlerinage à travers leur pays immense, l'Inde. Ce voyage est d'abord notre rêve commun, puis on a décidé d'en faire un film. On a apprivoisé ensemble l'idée de faire un film. 12 personnes, 4 mois de pérégrination à travers l'Inde, de l'Himalaya aux îles Andaman. Caroline est à la fois logisticienne, camerawoman, animatrice. L'objectif était le voyage et le film ne pouvait pas se faire au détriment de celui-ci. J'ai fini sur les rotules, mais je pouvais le faire parce que c'était elles, mes amies. Elles avaient une telle confiance en moi. J'ai réalisé qu'elles avaient une intelligence collective, une énergie dont je n'avais pas conscience au début du projet. L'aventure se conclut quelques années plus tard par une tournée des nonnes en France, de vrais rockstars auxquels le public réserve à chaque fois des standing ovations. L'hiver et ses promesses. Raconter cette vie, livrer des pans de ce quotidien dur dans l'isolement de l'hiver aux Anskars, à près de 4000 mètres d'altitude, n'aurait pas été possible sans y passer du temps. Caroline a appris la langue pour pouvoir comprendre et se faire comprendre. Elle ne veut surtout pas choisir des personnages au détriment des 12 membres de la nonnerie. Les nonnes suivent des règles, et sans doute l'une des premières est de ne pas se mettre en avant en tant qu'individu. Communauté soudée, elles ont cette capacité à ne pas être des individus seulement, mais de former une intelligence collective, une force qui leur permet à ce point d'être intègres par rapport à leurs valeurs, de digérer leur colère, même quand celle-ci fait irruption. Comme lors du tournage du deuxième film de Caroline chez les nonnes de Toungri, l'une des jeunes nonnes s'est enfuie après avoir accouché secrètement d'un bébé. Un séisme pour la nonnerie, que résume ainsi Caroline, un chambardement qui a résonné avec le chambardement du monde, puisque ce tournage se déroulait quelques semaines avant la pandémie, en 2020. Il lui fallait revenir, et jusqu'au dernier moment, elle ne pensait pas en faire un film, qui sera « Zanskar, les promesses de l'hiver ». Pour rejoindre le cœur du Zanskar depuis Leh, au Ladakh, Caroline a repris le chemin du fleuve gelé, le Chadar, quand les rives du Zanskar gèlent suffisamment pour permettre le passage à pied. Le Zanskar immaculé l'hiver, le froid implacable, la joie sur les visages des femmes qui se faisaient du souci, elles qui sont pourtant exposées tout l'hiver à ces conditions rudes. Caroline se dit inspirée par les films qu'une autre cinéaste de talent, Marianne Shaw, a consacrés au peuple du Ladakh Zanskar. Le point commun de leurs documentaires, le temps qu'elles ont su consacrer à leurs personnages, comme un autre grand peintre de l'Himalaya, Éric Vallier. Pas de cinéma du réel sans cette dimension, même quand le réel brise le rythme multicentenaire soudainement. Cet événement, la grossesse de Sonam, et donc le film, m'a obligée à ne pas parler du bonheur, mais de ce qu'on vit inéluctablement, que l'on veuille ou non, on peut être arraché du bonheur. Seul, tu accumules un certain niveau de colère qui a besoin de se transformer. D'habitude, elle gère, mais la grossesse de son âme, c'est trop fort. Il leur a fallu un peu de temps. Tout se joue dans cette idée de pouvoir que les nonnes rejettent comme une corruption de l'âme. Elles ont gardé cette notion fondamentale, bouddhiste, qui t'empêche de vouloir du mal aux autres. Elles ont évité ce travers du pouvoir. Filmer sans juger et ne pas oublier d'allumer la caméra. Ce sont souvent elles qui me disent « film ». Elles ont compris que le film est une mémoire. Qu'est-ce qu'un destin de cinéaste? C'est d'emmener des gens. Pour Caroline, dans une aventure himalayenne qu'elle n'aurait pas vécue autrement, aussi bien personnage que spectateur, dans la joie et la simplicité d'un vivre ensemble. C'était « Semeuse de joie », un texte de Jocelyn Chavy, paru le 11 juin 2024 dans Terre d'aventure.
Comment trouver des caméras cachées dans votre Airbnb? Un texte de Sophia Andrade du Washington Post, paru le 10 juillet 2024 dans La Presse. Certains locataires de propriétés à court terme mettent des caméras à l'extérieur bien en vue. C'est utile pour savoir combien d'occupants entrent, s'ils font la fête, s'ils viennent avec Fido, quand c'est interdit, ou s'ils partent avec le divan. Mais quand on loue un logis, il peut y avoir des caméras à l'intérieur, moins visibles et moins bien intentionnées. En sachant quels indices chercher, on peut les trouver, explique un expert en sécurité. Pas comme dans James Bond. Les gens se font une idée exagérée de la complexité des gadgets de surveillance. Ils pensent que c'est comme dans les films, très techno, très cher, miniaturisé et très bien dissimulé, explique Joe La Sorsa, un ancien membre des Marines qui a fondé La Sorsa and Associates, un cabinet conseil en sécurité spécialisé dans le contre-espionnage d'entreprises. L'immense majorité des dispositifs utilisés se trouvent dans le commerce de détail. Les gens achètent ça sur Amazon, eBay, Alibaba. Le Washington Post a caché des caméras dans une maison et demandé à M. La Sorsa de l'inspecter comme un non-expert pourrait le faire et en expliquant les étapes à suivre. Les règles en matière d'enregistrement clandestin varient selon l'endroit, mais les caméras cachées dans des pièces privées, chambres à coucher, toilettes, vestiaires, etc., sont généralement illégales. Pour ce qui est des pièces dites communes, la réglementation varie beaucoup. Mais la plupart des plateformes de location ont adopté des politiques s'appliquant à toutes les propriétés, peu importe l'endroit et ce que la loi locale pourrait permettre. Depuis mars 2024, Airbnb interdit les caméras de sécurité intérieure. VRBO et Trusted House Sitters ont des politiques semblables. Auparavant, Airbnb les autorisait dans les parties communes, à condition que le locataire le divulgue. Les sociétés de location à court terme autorisent les caméras à l'extérieur, à des fins de sécurité seulement. Le locataire doit signaler dans les documents d'accueil s'il y a des caméras et où elles sont installées. Certains locataires cachent-ils quand même des caméras? Pour avoir l'esprit tranquille, il faut au moins d'une demi-heure pour inspecter le logement et vérifier s'il y a des appareils, dit M. La Sorsa. Avec quelques connaissances et en étant attentif, vous trouverez 99 % des caméras. Un téléphone intelligent aide beaucoup, dit-il. Examinez ce qui se branche. Dans la maison louée, montrée à M. La Sorsa, il y avait de nombreux endroits où on aurait pu cacher une caméra. Des livres, des instruments de musique, l'œil d'une sculpture de girafe. Mais selon M. La Sorsa, ces cachettes sont peu pratiques. Elles n'ont pas de source d'énergie durable. Je m'inquiète moins des meubles et des décorations. Y cacher une caméra implique un appareil à piles, et la plupart des piles durent seulement quelques heures. Un locataire se tournera plutôt vers toutes sortes d'appareils qui se branchent dans une prise, donc sans piles, pour dissimuler une caméra. Des appareils n'éveillant pas de soupçons. Chargeurs USB, détecteurs de fumée, barres multiprises ou autres objets fournissant son électricité à la caméra et l'émetteur Wi-Fi. M. La Sorsa a tout de suite montré du doigt la première caméra cachée. En partant, le détecteur de monoxyde de carbone saute aux yeux, a-t-il dit. C'est un appareil domestique courant, mais avec un fil, ça mérite qu'on jette un coup d'œil. Il a ensuite examiné d'autres objets potentiellement trafiqués. Le haut-parleur Bluetooth sur le comptoir de la cuisine, le réveil dans la salle familiale, l'assainisseur d'air sous la table de l'entrée. Il a jeté un coup d'œil au haut-parleur du cinéma maison, juste au cas, mais sans plus. Il y a plusieurs enceintes. C'est normal dans une salle de télé. Connexion Wi-Fi bizarre. On peut détecter si un appareil suspect est connecté à l'Internet grâce à des applications gratuites comme Airport Utility, dit M. La Sorsa. Approchant son téléphone du détecteur de monoxyde de carbone, il a scanné la liste des connexions de la maison. Le réseau Netgear du propriétaire est apparu à l'écran, mais aussi plusieurs connexions avec un nom bizarre comme G419637LGWMW. Pourquoi ce détecteur serait-il sur le Wi-Fi? Il y a anguille sur roche, c'est clair. Mouchard, code QR et lampe de poche. Après avoir identifié les objets suspects, M. Lasorsa a fait plusieurs tests. Il a débranché les objets et les a retournés, trouvant parfois de mystérieux codes QR. « Regardez », a-t-il dit en montrant un réveil matin. « Ce n'est pas un autocollant du fabricant, avec le numéro de série, le genre qu'on voit pour l'enregistrement d'une garantie », a-t-il déclaré. « Ce code QR sert à connecter ce mouchard au Wi-Fi. » Pour être sûr, il a allumé la lampe de poche de son téléphone, faisant miroiter la lumière sur la face du réveil, révélant un reflet dans un minuscule trou à gauche de l'affichage de l'heure. « C'est une lentille, juste là », a-t-il dit, en montrant une lueur aussi minuscule que le point à la fin de cette phrase. Monsieur Lasorsa a sorti de sa poche un détecteur de radiofréquence muni d'un détecteur de lentilles et l'a dirigé vers l'horloge en me faisant regarder dans le viseur. La lumière rouge du détecteur de lentilles a clignoté. Ce réveil ne servait pas qu'à sonner le matin. Détecteur de radiofréquence et de chaleur. Un détecteur de radiofréquence, comme celui de M. Lasorsa, coûte entre 30 $ et plusieurs centaines de dollars. Il détecte et mesure l'émission de radiofréquence dans une pièce, ce qui, en soi, n'est pas nécessairement utile. Presque tous les appareils électroniques émettent des radiofréquences. Mais si vous devez enlever ou débrancher tous les gadgets légitimes et que les radiofréquences demeurent élevées, c'est mauvais signe. Il y a peut-être une caméra cachée. Passer un détecteur thermique, environ 300 $, sur l'objet suspect est plus sûr. Les caméras cachées émettent de la chaleur, dit M. Lasorsa. Après avoir fixé un InfiRay, ça ressemble à un appareil photo numérique, à son téléphone, il l'a passé près d'un détecteur de fumée ordinaire. L'image à l'écran était verte, mais les appareils dissimulant une caméra apparaissaient rouge vif à l'écran. Il y a des caméras. Que faire? Si vous découvrez une caméra cachée, les experts suggèrent de débrancher l'appareil ou de couvrir l'objectif avec une serviette. Ne la retirez pas. Vous pourriez être accusé d'avoir endommagé les biens du locateur. Signalez l'infraction à la plateforme de location. Appelez la police locale si la caméra était dans une chambre ou les toilettes. Envisagez aussi de changer de logement, si c'est possible. C'était « Comment trouver des caméras cachées dans votre Airbnb? » Un texte de Sophia Andrade du Washington Post, paru le 10 juillet 2024 dans La Presse.
Des logements sociaux succéderont-ils au siège social de TVA? Un texte d'Étienne Paris, paru le 2 août 2024 dans Le Devoir. Québecor fait un pas en avant avec son projet d'aménagement de logements sociaux au 1600 boulevard de Maisonneuve-Est à Montréal. L'entreprise est officiellement à la recherche de sources de financement public pour le réaliser. Plusieurs questions demeurent toutefois en suspens. 9 mois après que le conglomérat eut annoncé que le réseau TVA allait quitter son siège social historique dans le cadre de compressions majeures. Aucun échéancier précis n'a été avancé relativement au moment où TVA s'installera dans l'immeuble du 4545 rue Frontenac, qui a longtemps abrité la salle de rédaction du Journal de Montréal. Les déménagements se feront de façon évolutive au cours des prochains mois, a réitéré la direction du groupe TVA. On en sait toutefois un peu plus sur les intentions de Québécois en lien avec le siège social actuel de TVA. Une inscription au registre québécois des lobbyistes datée de la mi-juillet 2024 évoque que la compagnie compte faire, dans les prochains mois, des représentations auprès de la Ville de Montréal et du ministère québécois de l'Habitation pour l'obtention des permis et des financements publics nécessaires à la transformation du bâtiment. Le mandat enregistré par Québécois en vertu de la loi qui encadre le lobbying au Québec est valide jusqu'à la fin de l'année 2024. Nous sommes interpellés par la crise du logement et nous sommes en discussion avec les autorités municipales de Montréal et le gouvernement du Québec sur la possibilité de convertir une partie de l'immeuble en logements sociaux. C'est limité à confirmer la direction de TVA par courriel. Combien d'appartements pourraient-ils y être aménagés? À quelle part le financement public devra-t-il s'élever pour que le projet se concrétise? Ces questions sont prématurées pour le moment, répond-on chez Québécois. Un lieu important pour le secteur. Le président et chef de la direction de l'entreprise, Pierre-Carl Péladeau, avait déjà soulevé la possibilité que le 1600 boulevard de Maisonneuve-Est soit converti en logements sociaux lorsqu'il avait déclaré, en novembre 2023, que TVA quitterait l'endroit. Il avait annoncé au même moment le licenciement de 547 employés du réseau de télévision, soit près du tiers de son effectif. M. Péladeau avait également lancé l'idée que des résidences étudiantes puissent être aménagées dans cet édifice situé à quelques coins de rue de l'Université du Québec à Montréal. En mars 2023, Le Devoir révélait qu'aucune discussion sérieuse sur l'avenir de cet imposant bâtiment de 11 étages n'avait encore été entamée entre les différents intervenants, ce qui inquiétait les commerçants du secteur. L'édifice est situé en plein cœur du centre-sud, l'un des quartiers les plus démunis de Montréal. Le groupe TVA, qui y est installé depuis des dizaines d'années, est l'un des plus gros employeurs du coin. Le service de la stratégie immobilière de la Ville de Montréal a indiqué n'avoir encore reçu aucune information par rapport à la conversion du 1600 boulevard de Maisonneuve-Est en espace locatif. C'était « Des logements sociaux succéderont-ils au siège social de TVA? » un texte d'Étienne Paris, paru le 2 août 2024 dans Le Devoir.